Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Nous allons commencer cette émission dans laquelle nous aurons le plaisir de recevoir notre invité Michel Baglin. Nous allons commencer cette émission par écouter un chant de troubadour, car il y a à signaler en premier lieu un événement qui me semble être un événement de grande importance, c'est la publication de l'anthologie de la littérature occitane du XIe au XIIIe siècle par Gérard Zucchetto, qui publie donc toutes les cançons, tous les textes des troubadours. C'est un ouvrage colossal. C'est un livre qui a du poids dans tous les sens du terme, et dont nous aurons le plaisir, bien sûr, de parler avec Gérard Zucchetto. Mais ça me semble être un événement aussi considérable, en définitive, que lorsque René Nelly a publié l'érotique des troubadours. Hein, parce que je ne sais pas si on avait pu faire ce recensement de l'ensemble des textes. C'est une anthologie de la poésie des troubadours, je dirais de façon exhaustive. Alors Gérard Zucchetto, quelqu'un qui a travaillé depuis plus de 30 ans, qui travaille là-dessus depuis tant de temps, qui travaille avec l'université de Stratford, puisque c'est surtout à l'étranger qu'on s'intéresse des troubadours d'ailleurs, hein, beaucoup plus qu'à Toulouse, hein, ce qui est assez étonnant, mais c'est comme ça. Donc nous aurons le plaisir d'avoir bientôt Gérard Zucchetto, mais je vous invite d'ores et déjà à aller voir sur notre site les-poètes.fr cette annonce de cette anthologie de la littérature occitane dans des troubadours sur notre site, notre page d'accueil. Alors, tout de suite, on va écouter, chanté par Gérard Zucchetto, hein, qui est un grand musicologue, hein, par ailleurs, un grand compositeur, on va écouter de Maître Emengo, Dredzmatura. Voilà, c'était Gérard Zucchetto et qui chantait Drex de Natur. Alors, dans les annonces que je vais faire cette semaine, je voudrais signaler la dernière parution de Antoine Emaz aux éditions Tarabuste éditeur. Alors, c'est évidemment un livre de poèmes. On va retrouver l'Antoine Emaz habituel, c'est-à-dire cette poésie, toute à l'économie, économie de mots, économie d'adjectifs, sans que ce soit quand même des aphorismes. C'est là la différence, peut-être. Ce sont des textes brefs, ce ne sont pas des aphorismes, ce ne sont pas des tweets non plus, comme nous le verrons tout à l'heure avec une publication de Jacques Ancé. Exemple. Dehors est resté à la pression normale, mais on a du mal à faire avec. On aimerait seulement être tranquille face au jardin, ou bien trouver refuge au fond de la page, attendre parmi les ombres muettes, laisser passer le vent, les mots vides et tous ceux qui savent. Voilà. Bon exemple donc de cette poésie, qui est une poésie à l'économie, certes, mais une poésie qui est rattachée certainement à l'essentiel, c'est-à-dire la vie qui passe, le quotidien, des réflexions qui peuvent engendrer une espèce de transcendance assez étrange et terriblement poétique, c'est-à-dire qu'il y a une esthétique absolue dans tous les textes. Soir, seulement là, repos, le silence de la pièce, la lampe, le carnet, la maison, seulement ça. La main, les mots encore, et si on veut, ce peut être la mer ou les couleurs d'automne. Voilà. Donc, pas de grandiloquence, pas de grand thème, etc., mais une espèce de réflexion sur la vie, un peu douce-amère, mais en même temps, qui peut être aussi très agréable. Voilà, c'est aux éditions Tarabuste, Limite, et nous essaierons de faire peut-être une émission entière avec Antoine Emaz. Et puis, tous les poèmes de Constantin Cavafis. Alors là, ils l'écrivent. Cavafis, C-A-V-A, avec un accent, F-I-S, puisque, alors que Cavafi lui-même mettait son nom avec un Y, c'est-à-dire à l'anglaise. À l'anglaise. Alors, on a enfin une anthologie de tous les poèmes de Cavafis. C'est un événement aussi, parce que je pense que ça n'avait jamais eu lieu jusqu'ici. Les éditions Gallimard, Petit Livre Blanc de Poche, avaient publié effectivement des textes de Cavafis. Il y avait dans ces publications, il y avait quelques textes qui étaient dans ce qu'on appelle chez Cavafis les poèmes cachés. Il y en avait quelques-uns, mais là, cette anthologie a été faite avec une intelligence extraordinaire par Michel Volkovitch, qui d'ailleurs explique dans une postface la présentation un peu de ce travail, et puis il explique aussi ce qu'était Cavafis. Cette anthologie a le mérite de reprendre, non pas par catégorie, c'est-à-dire poème publié, poème caché, poème renié, ce qui est en définitive les classements qu'avait fait Cavafis de ses textes, lui, il les a pris par ordre chronologique, simplement chronologique, et sans aucune distinction de savoir si vous voulez les publier, si vous ne voulez pas les publier, etc. Et alors, j'avoue qu'on s'y repère beaucoup mieux, et c'est terriblement intéressant. Alors, nous ferons une émission sur Cavafis, je crois, parce que je m'aperçois que c'était, vous le savez, le poète retenu pour cette manifestation 50 poèmes pour la neige, qui a été la manifestation européenne donc du mois d'avril, que nous avons accueilli ici à Toulouse, à l'Oustal. Et c'est à cette occasion donc que nous avons pris connaissance véritablement de l'importance de Cavafis. Cavafis, qui par ailleurs était un peu comme un Pessoa, c'est-à-dire une espèce d'employé absolument subalterne, dont la vie personnelle était, nous dit Volkovitch, était totalement insignifiante et que, en réalité, la seule véritable vie de Cavafis a été la poésie. La poésie. Voilà. Un peu comme Pessoa. Hein. Voilà. Alors, tous les poèmes, Constantin Cavafis, traduit par Michel Volkovitch, c'est un livre évidemment très épais, il vous coûtera 20 euros, mais à mon avis, absolument à lire. Alors, juste un extrait pour ne pas. Alors, j'ai choisi cet extrait parce que vous allez voir avec notre invité, c'est un sujet dont nous allons parler. Alors, ce poème s'appelle À l'Église et il s'agit de l'Église catholique orthodoxe. À l'Église. J'aime l'Église, ses lumières, ses chandeliers d'argent, ses bannières, ses icônes partout, sa tribune à l'arrière. Quand j'entre là, dans notre église grecque, au milieu des odeurs d'encens, des voix des prêtres et des chants, la majesté des célébrants, aux gestes graves et intenses, aux vêtements pleins de magnificence, me ramène au glorieux passé de notre peuple, aux grandes heures de Byzance. Voilà, Cavafis. Et puis, Cavafis a vécu toute sa vie à Alexandrie. C'est un grec immigré d'Alexandrie. Il est allé très peu, en définitive, en Grèce. Voici ce qu'il dit. Fugitif. Ça écrit. Alors, c'est ce qu'on appelle les poèmes cachés. Et ça a été écrit en 1914. Alexandrie. Toujours la même. Sur la grande avenue, filant tout droit vers l'hippodrome, tu verras palais et monuments en perte de vue. Malgré les guerres et leurs dégâts et les terres perdues, elle est restée grandiose. Et pour nous, le temps passe. On se promène, on lit, on s'occupe à diverses choses. De soir, en bord de mer, se réunit notre groupe, nous cinq. Pourvu, il va sans dire, de noms d'emprunt. Et des Grecs, parmi ceux bien rares que la ville encore attire. Nous parlons religion. Les latins sont nombreux dans ces lieux, semble-t-il, ou bien littérature. Nous avons lu des vers de Nonnus l'autre soir, que de belles images. Comme sa langue est pure, quelle harmonie. Nous avons tous admiré son grand art, ainsi passent les jours. Et nous ne souffrons guère d'attendre ici, étant bien entendu que nous n'y sommes point pour une vie entière. Les nouvelles sont bonnes. Un renfort est prévu depuis Smyrne, ou les pires, où, en grand nombre, nos amis se préparent et, dans un temps très court, nous allons renverser Basile sans encombre. Et dès lors, ce sera notre tour. Bon, c'est un poème caché. Et puis, simplement pour finir, c'est un poème qui a été publié en 1920, « Noble byzantin en exil qui fait des vers, que les esprits légers me jugent légers. » Dans les affaires sérieuses, j'ai toujours fait preuve d'une minutie extrême. Et j'insiste, nul ne connaît mieux que moi les pères de l'Église, les Écritures, les canons des synodes. Toutes les fois que Botaniat avait un doute pour toute difficulté concernant l'Église, c'est moi qui consultais, moi le premier. Mais en exil ici, je le dois à la méchante Irène Doukas, et m'ennuyant à mort. Je ne vois rien d'inconvénient à ce que je me distrais en écrivant des sixains, des huitains, que je me distrais avec des vers mythologiques sur Hermès, Apollon, Dionysos ou des héros de Thessalie et du Pénopolèse, que je compose des iambes très habiles tels que, permettez-moi de le dire, aucun lettré de Constantinople ne sait en composer, c'est cette habileté sûrement la cause du blâme. Voilà. Alors, Constantin Cavafis, donc, qui dit là son aisance avec l'Église et la liturgie. Cavafis qui a passé sa vie, évidemment, à se camoufler, puisqu'il avait des amours homosexuels qui, à cette époque-là, passaient plutôt mal. Et enfin, dernière annonce, un poète, que tu aimes beaucoup, je pense, toi aussi, Michel Baclin,
hein,
qui est un de nos grands poètes, grand traducteur en tout cas, grand traducteur de la poésie de langue espagnole, Jacques Ancé, qui publie aux éditions toulousaines Erès, dans la collection Poépsie, dirigée par Daniel Faugeras, avec des dessins de Daniel Desnouet. Il publie Quelque chose comme un cri, ce sont des tweets. avec donc ces très belles illustrations. Alors, comme d'habitude, un petit livre très très agréable.
Le format.
Au moins, voilà, un format qui est commode parce que on peut le garder dans la bibliothèque, il n'en comprend pas trop. Il coûte quand même 20 euros. Mais il faut voir ça comme un véritable livre d'art, en définitive, un livre d'artiste, un peu. Voilà.
Alors, petit gros, format, mais épais.
Petit format, mais très épais, bien sûr. Hein, voilà. Donc, une excellente collection avec Jacques Ancé. Jacques Ancé, bon, on ne le présente pas, il est né à Lyon en 1942, il vit près d'Annecy. Il est auteur d'une quarantaine de livres, il a reçu de nombreux prix, le prix Apollinaire, le prix Roger Caillois, pour la traduction, hein, Roger Caillois. Et tout récemment, son travail de traducteur et d'écrivain a été distingué par un doctorat honoris causa de l'Université catholique de Louvain. Décidément. Voilà. Alors, tout de chêne renversé dans ses feuilles, on voit, on entend les oiseaux, la brume, les non-seuls, personne ne vient. Voilà un des tweets de Jacques Ancé. Je les prends au hasard, hein, puisque bon. J'écris pour être bien, dit-il encore. Mais ça fait mal. Chaque mot m'emporte et je ne suis rien, chaque mot me tue. Voilà. Mmh. Un poème, un tweet, mais qui est un poème d'une extrême brièveté, mais qui comporte quand même
une ouverture,
une réflexion, une résonance extraordinaire. Mmh. Parce que ce qu'il dit, c'est vrai, on écrit pour être bien, en même temps, il y a aussi une souffrance. Et puis, les mots peuvent tuer, quoi. Voilà. L'écriture n'est pas cet art décoratif auquel beaucoup voudraient réduire les poètes et la poésie. Hein. Oui. Dans l'ombre, il y a la lumière, dans le jour, la nuit, et dans mes yeux. Voilà. Donc, très beau tweet de Jacques Ancé aux éditions RS.
Qui avait déjà publié chez le même éditeur.
Oui, qui avait déjà publié.
Une somme. Hein,
enfin, oui, les travaux de l'infime.
Les travaux de l'infime,
voilà.
Un gros livre. Voilà. Oui. Enfin, petit format, mais grand livre. Et...
Tout à fait. Voilà, donc j'en ai fini avec les annonces. Maintenant, place à notre invité, Michel Baglin. Merci beaucoup d'être venu ce soir, ici, Radio Citadio.
Merci. Alors, de m'accueillir.
Michel, j'espère que tu nous feras le plaisir de revenir parce que tu fais partie des visiteurs rares, ce qui est un peu paradoxal, mais enfin bon, j'en ai pris mon parti, ce sont souvent les gens les plus près que l'on a le moins facilement. Hein. Voilà. Alors, tu vas venir ce soir nous parler. Il y a beaucoup de choses dont nous n'avons pas parlé que tu as publiées. D'abord, il y a les poupées russes.
Hein, les loupés russes.
Les loupés russes, pardon, un lapsus. Les loupés russes, bon, excusez-moi. Et ce soir, nous allons parler essentiellement de tes derniers livres, Michel Baglin, avec les dessins de Jean-Michel Delambre, Lettre d'un athée à un ami croyant, qui a paru aux éditions Henri. Donc, excellente édition aussi. Hein, c'est un petit... petit traité, un petit fascicule, plutôt philosophique d'ailleurs, on en reparlera.
Oui, on est loin de mes écrits habituels.
Qui est à lire absolument, d'abord parce qu'il est très agréable à lire. Les illustrations de Jean-Michel Delambre sont absolument extraordinaires.
C'est un dessinateur.
Il y a un humour fabuleux. Vraiment.
Jean-Michel Delambre est dessinateur au Canard
Enchaîné,
à Charlie Hebdo. Mais il est poète aussi. Il a d'ailleurs publié plusieurs recueils, notamment aux éditions Henri.
Oui, c'est indiqué dans le... Alors, il y a une caricature du prophète autorisée par l'obscurantisme, dont on peut parler, qui est absolument ravissant. C'est un cadre avec, évidemment, toute une toile noire. Voilà. Alors, nous allons parler donc essentiellement aujourd'hui de Lettre d'un athée, un ami croyant, donc... Mais également, il a publié, Michel Baglin, il a publié des nouvelles, Au Trouble, aux éditions Petra, hein, ce sont des nouvelles, donc un beau livre qui vous coûtera 16 euros, et dont je pense que nous n'aurons certainement pas le temps peut-être de trop parler ce soir, mais Michel nous a promis qu'il reviendrait pour nous en parler.
Oui, juste un mot. Moi, j'aime beaucoup la nouvelle. J'ai publié plusieurs recueils. Donc, celui-ci, c'est mon dernier. C'est pour moi les plaisirs d'écriture, la nouvelle, parce qu'on est à la fois entre le roman, parce qu'il y a une anecdote et des personnages, et la poésie, parce que ça, elle est rayonnante, la nouvelle, elle n'est pas linéaire, quoi.
Je crois que on partage cette fascination pour Hemingway tous les deux.
Oui.
Et la nouvelle, c'est le maître de la nouvelle,
Hemingway. C'est un des maîtres. Oh, il y en a d'autres. Tchekhov. Oui. Moi, j'aime beaucoup les nouvelles de Tchekhov parce qu'elles sont extrêmes. Oui. Souvent, elles n'ont pas de chute. Oui. D'ailleurs, oui. Contrairement oui. à ce qu'on dit, oui, la oui, nouvelle oui. n'a pas forcément oui. de chute. Oui. Et elles sont oui. Tout en nuance, tout en.
Ah, est-ce que on assiste chez nous en France? Ah, un renouveau un peu de la nouvelle.
Écoute, on l'annonce régulièrement. Ah, ça fait 30 oui. ans que j'entends dire « Ah oui, il y a des éditeurs qui s'y intéressent, il y a un renouveau. » Mais je ne le vois pas vraiment arriver. En fait, la nouvelle est très maltraitée en France. Oui. Les éditeurs ne veulent pas en publier parce que les lecteurs semblent un peu la bouder, paradoxalement, dans un monde qui va vite.
C'est très paradoxal.
Mais bon. C'est ouais. comme ça. Moi, j'ai l'expert toujours qu'il y aura un renouveau. Parce que souvent, j'ai affaire à des gens qui me disent « Ah oui, la nouvelle. » Ben oui, mais en vérité, peu de gens lisent. Quoi.
Oui.
Ou alors, les éditeurs oublient de marquer qu'il s'agit de nouvelles. Pour. Mais voilà. Ouais, ouais.
Alors, avant d'entamer ce recueil, je voudrais dire deux choses. D'abord, il y a, au moment où l'on parle, il y aura demain une rencontre débat, une conférence même, qui s'appelle La place de la religion, une question qui nous fait contemporain d'Averroès.
D'Averroès. Ah, mais c'est l'association voilà. Averroès.
L'association Averroès. Hein, voilà.
Bon
avec Marie-Jean Sauret, qui est professeur émérite de l'université, d'ailleurs Jean Jaurès de Toulouse. Donc c'est demain à 19h à l'espace Diversité. Laïcité, à la salle 5. Il est également Marie-Jean Sauret, il est psychanalyste et auteur de nombreux ouvrages, psychanalytique et politique, et psychanalyse et religion. Voilà. Donc, on est en plein là, au cœur du sujet, en définitive, on peut dire de ton petit essai, là, hein, sur les lettres d'un athée à un ami croyant. Et puis, cette manifestation se continuera dans un programme où il y aura des rencontres débats que je vous invite à regarder. Donc, ceci va durer jusqu'au 9 juin 2017, les soirées d'Averroès, qui a pour titre Raison, humanisme, radicalité, comprendre les multiples facettes de l'islam. Alors, on est en plein dans, effectivement, le débat qui va nous animer. Et puis, l'actualité, évidemment, te donne ô combien, et c'est terrible de dire ô combien, raison dans ce que tu dis dans ce livre, puisque nous savons que les mots coûtent cher, et que le gouverneur de Jakarta, qui est la capitale indonésienne, a été condamné il y a quelques jours à 2 ans de prison pour insulte à l'islam. C'était en septembre dernier, il avait remis en question l'interprétation du Coran par certains théologiens qui affirmaient qu'un musulman ne devait élire qu'un dirigeant de même confession. Cette allégation du gouverneur chrétien, alors candidat à sa propre succession, avait fait de remous dans le pays, à 90% musulmans, et où la question religieuse est particulièrement sensible. Son procès, ouvert en décembre, avait traîné de longs mois, pesant sur la campagne électorale finalement perdue par l'accusé. Fin avril, la décision du juge évoquant un blasphème a réjoui les plus conservateurs, mais a surpris la plupart des Indonésiens. Le parquet avait en effet requis une peine plus légère de 2 ans de mise à l'épreuve. Connu pour son franc-parler, l'homme a d'ores et déjà annoncé son intention de faire appel. Donc c'est en cours. Et voilà donc un sujet qui est un sujet d'actualité absolument immanent, là, et qui illustre d'une façon terrible, certainement, hein, terrible, enfin, ça pourrait être plus terrible, puisque
disons simplement
il y a eu des peines de mort aussi.
L'actualité aujourd'hui, c'est le monde qui est mis à feu et à sang par les religions, et singulièrement par l'islam. Et on est toujours dans l'euphémisme quand on en parle. Et c'est ça qui m'a amené, moi, à écrire, c'est que cet euphémisme me sort par les yeux. J'en ai marre. qu'on soit toujours à minimiser ce qu'il faut bien appeler dans la plupart des cas du fascisme, l'islamo-fascisme, qui peut aussi être du fascisme chez toutes sortes d'intégristes de toutes confessions, mais aujourd'hui c'est la plaie, vraiment la plaie. On a un monde à feu et à sang en raison de ces comportements qui sont des comportements totalitaires, qui sont du mépris de l'autre, de l'asservissement, du refus de la liberté simplement de penser. Je dis pas d'expression, de penser. Alors, effectivement, ça m'a amené à une réaction de colère, notamment sur les termes. Tu parlais de blasphème, on va y revenir. Sacrilège, blasphème, tout ça, c'est des mots bidons. Le sacrilège, ça suppose qu'il y ait un sacré. Or, pour qu'il y ait un sacré n'a de sens que s'il est universel. Sinon, si chacun a le sien, ce sont des opinions. Or, du sacré universel, moi je n'en connais pas, j'ai jamais vu quoi que ce soit. Même la vie, même le respect de la vie, qui devrait être une valeur, ne l'est pas. Donc, du sacré, ça n'existe pas. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de sacré universel, il n'y a pas de sacrilège. C'est de la foutaise.
Ce que disait Henri Méchonnic, hein. Il avait, dès qu'on parlait de sacré, lui, il partait en courant.
Mais de toute façon, quelqu'un qui parle de sacré, c'est qu'il fait du mal.
Il se mettait en colère, d'ailleurs. Il ne supportait pas ça.
Moi non plus, voilà. Parce que je sais très bien que si quelqu'un me parle de sacré, c'est quelqu'un qui me veut du mal, qui veut m'asservir d'une manière ou d'une autre.
Alors, lettre d'un athée à un ami croyant, donc comme le titre l'indique, ce plaidoyer que tu fais pour à la fois la décomplexisation absolue et même au-delà, presque l'apologie de l'athéisme que tu fais quand même dans...
Alors attends, oui.
Tu l'as fait sous forme de lettres. Hein,
oui, et c'est une fiction épistolaire, c'est-à-dire c'est des lettres, un interlocuteur qui est virtuel, mais qui est pour moi la synthèse de beaucoup d'interlocuteurs que j'ai, des amis qui sont croyants ou chrétiens ou musulmans, et donc j'en ai fait un seul pour simplifier, auquel je m'adresse. Lui ne me répond pas, il n'y a pas de lettre de lui, parce que je ne vais pas parler à la place de l'autre, mais je laisse deviner ses arguments à travers mes réponses, ce qui induit quand même un dialogue. Oui. Voilà. Oui. Évidemment, je ne peux pas parler à la place de l'autre, mais j'entends ses arguments, et beaucoup de ses arguments. Donc, voilà, et puis il y a des choses où effectivement, je n'ai pas de réponse.
Alors, on va essayer d'abord de faire entendre, parce que je dis tout de suite que les auditeurs ne s'effraient pas. Il ne s'agit pas d'un traité philosophique ennuyeux, loin de là. Hein, on est là justement par le style que tu as pris, c'est-à-dire cette fiction épistolaire. On est là dans un style familier. Où tu traites avec profondeur de problèmes qui sont des problèmes de société majeurs. Tu le traites avec beaucoup de profondeur, mais également avec un ton familier.
Surtout, qui
permet justement d'entrer facilement dans cette problématique.
Oui, parce que je m'adresse à quelqu'un, et ce quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Alors, encore une fois, ça représente plusieurs personnes, mais ce sont des interlocuteurs, des gens que j'estime, que j'admire dans certains cas et que j'aime beaucoup. Donc, je n'ai pas... Je veux arriver à avoir des positions claires, mais qui, en même temps, respectent les personnes. On va y revenir, là aussi. Pas les opinions, parce que les opinions... Moi, si on parle d'un nazi, je ne respecte pas le nazisme. On n'a pas à respecter les opinions, les croyances, mais le respect est dû à la personne. Et c'est tout... Donc, à travers ce dialogue, je suis dans le respect de la personne. Mais je suis dans le combat des opinions. Alors tu disais apologie de l'athéisme, c'est pas, j'en parle à la fin, mais c'est pas le, moi l'apologie c'est l'apologie de la laïcité, c'est-à-dire que je serais tout à fait prêt à me battre pour que des croyants aient le droit à leur croyance dans une société qui voudrait la leur interdire, comme ça a été le cas à une époque en Union soviétique. Je serais de leur côté, du côté des croyants et pas du côté. Donc c'est la laïcité d'abord, c'est-à-dire le droit de croire ou de ne pas croire et de croire à ce qu'on veut. Alors après,
Il y a le bonheur, tu parles d'un bonheur. Alors après, dans un deuxième temps,
on me dit souvent, oui, mais nous, on a la chance d'être croyants, je vous plains beaucoup en tant qu'athée. Moi, je dis non, je crois que l'athéisme, c'est une chance. L'athéisme ou le... l'athéisme, oui, est une chance, c'est... On peut dire les agnostiques aussi, mais moi je préfère être un peu tranché, et je parle d'athéisme, je pourrais peut-être expliquer pourquoi tout à l'heure, mais et donc je crois que c'est une chance aussi, cette vision du monde de l'athée est riche. Et donc, et elle est aussi fraternelle. Il n'y a pas besoin d'un dieu pour la fraternelle. Je me demande même si les dieux, d'une certaine manière, n'éliminent pas ou ne condamnent pas la fraternité, parce que les dieux, ils sont multiples, chacun a les siens. Or la fraternité, elle est universelle, elle aussi. Si elle n'est pas universelle, elle n'a aucun sens. La fraternité d'un petit groupe, du tout, ça s'appelle le communautarisme. Et c'est donc, mon frère, il est là, mais celui-là, c'est pas mon frère. Si on est là, on est dans l'esprit de tribu, de clan, de meute, à la limite. Et c'est ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui. Donc, moi, la fraternité, pour moi, elle est universelle. D'ailleurs, j'ai un poème que je lirai peut-être là-dessus.
Je voulais dire ce petit livre en dit beaucoup plus souvent que de gros traités sur le sujet. Il faut absolument le lire, parce que en définitive, avec un aspect assez anodin, Michel Baglin, je crois que tu renforces vraiment bien le...
Oui.
Et je crois que l'actualité te donne tellement raison. Tu es tellement au cœur, en définitive, d'un problème universel maintenant, contemporain, que je ne peux que recommander dans ce livre, Lettres de notre ami croyant.
Je m'appuie quand même sur beaucoup d'écrivains, notamment d'écrivains du monde musulman, je dis pas musulman même, mais du monde musulman, comme Adonis, qui dit des choses très fortes et très bien, ou Daoud, ou enfin beaucoup d'autres.
Oui, tu parles de Boualem Sensal, par exemple.
Oui, Boualem Sensal et d'autres, parce que, ils disent des choses... Ils osent dire que des choses que nous on n'ose pas, et ça c'est ce qui m'agace un peu. On finit par être tellement veule devant ce qui se passe que quelque part on est complice du totalitarisme qui s'installe. Mais peut-être que je peux lire la première lettre pour donner la tonalité.
Absolument. Hein.
Donc c'est l'ouverture, c'est un fait vrai. Je dirai en deux mots après. Cher Jean. Sans doute, alors je donne la date, pardon, c'est le jeudi 8 janvier 2015. Donc, on se rappelle que le 7 janvier 2015, il s'est passé des choses assez atroces. Cher Jean, sans doute es-tu comme moi mortifié, peut-être révolté. Pour ma part, ce mercredi noir n'est pas près de sortir de ma mémoire. La mort, le deuil l'auront marqué du matin au soir, mais pas de la même façon. C'est un ami que tu as lu toi aussi et apprécié, le poète occitan Yves Rouquette, que j'accompagnais hier matin avec des centaines de parents et de proches de l'église de Camarès, si on veut, dans le sud d'Aveyron, au petit cimetière de son village. Pardon. Malgré sa prédilection pour traîner, j'ai toujours eu envie d'évoquer Brassens à son sujet, moins parce qu'il est né à Sète il y a 78 ans, qu'à cause de sa malice et de la bonté qu'on lisait dans son sourire, ou même souvent dans la vigueur un peu rude de son propos. Je convoque la figure du chanteur, c'est toi. Cependant, Yves était croyant, mais sa foi, comme celle de son épouse, la romancière Marie Rouanet, et sans doute celle de son frère, Jean Larzac, prêtre et chanteur qui célébra ce jour-là un office sans panégyrique ni fioriture, était des plus ouvertes, de celles qui chantent l'amour sur la portée des évangiles. Moi, l'athée, j'ai aimé parler avec ce chrétien buissonnier, ainsi qu'il se définissait, de l'énigme que demeurait pour lui une déité ambiguë, et que ses poèmes, ceux des dieux premiers, son dernier recueil notamment, n'ont de cesse d'interroger. Dans un monde où toujours la même innocence et la même cruauté sont à l'œuvre, il persistait à croire, non sans un brin d'ironie et peut-être un soupçon de perplexité, à ce Christ qu'on force aujourd'hui à rire jusqu'aux oreilles à coups de rasoir. Il mettait en tout cas son verbe truculent, nourri aux plus élémentaires de la vie, au service d'une poésie, d'une religion qu'il voulait de bienveillance. Puis ma femme et moi avons repris la route et avons allumé la radio. Alors nous avons appris, sans parvenir à y croire tout à fait, que la rédaction de Charlie Hebdo avait subi l'attaque d'islamistes. Le massacre des hommes libres par les chiens de Dieu avait commencé comme ceci le laissait prévoir depuis des années, depuis notamment qu'ils avaient incendié les locaux du journal satirique. Et la mort, tout au long du trajet, s'est déclinée en cette succession de noms de dessinateurs et de journalistes qui, même si nous ne les connaissions pas personnellement, étaient aussi des amis de longue date. Dans un état d'abattement, nous ne parvenions pas à réaliser que la menace intolérable de la bêtise avait été exécutée, que l'infamie avait pris corps. Il me fallut me retrouver le soir même sur la place du Capitole, au milieu d'une foule de gens réunis spontanément et qui se souriaient malgré leurs yeux humides pour admettre l'inacceptable. Des êtres généreux, œuvrant avec leur seul humour contre l'obscurantisme, avaient été assassinés par la foi arrogante d'autres hommes qui croyaient avoir trouvé Dieu. J'ai pensé à Yves, lui qui n'avait jamais cessé de le chercher et le cherchait toujours. Il m'a ainsi encore aidé à imaginer, une fois essayant d'augmenter l'homme par des questions, quand une autre, par ses réponses dogmatiques, racornit le cœur et produit cette source intarissable de misère, le fanatisme. Et je t'écris ce soir de retour de la place du Capitole parce que j'ai aussi pensé à toi et à quelques autres amis croyants que les fous de Dieu insultent et que j'imagine ce soir abattus, incrédules. Je ne suis pas loin de penser que ton chagrin passe même le mien, parce que ces événements tragiques contredisent ta croyance, quand ils ne font hélas que confirmer ce que je soupçonne depuis toujours, la foi ne rend pas meilleure, seulement moins protégée par le doute, et donc exposée à cette bêtise au front de taureau que l'on voit à nouveau à l'œuvre un peu partout dans le monde.
Alors c'est un extrait où tu parles également de d'Yves Rouquette, hein,
oui, qui était un ami, bien sûr.
Un ami, bon, le poète occitan qui a disparu il y a peu de temps et qui laisse.
Et c'est vrai, j'étais à son enterrement, le 7 janvier. Ouais. Et quand on est monté dans la voiture, on a entendu cette déclinaison des noms des dessinateurs, journalistes de Charlie. Et bon, la colère. Alors après, j'évoque bien sûr les autres attentats, ceux du Bataclan, ceux du Super Cacher. Ce qui m'a fait réagir, bon, au début, j'avais écrit des textes déjà bien avant, notamment, bon, au temps de Salman Rushdie et de sa fatwa. J'ai connu pas mal d'amis, notamment des amis algériens qui ont, comme Rachid Boujedan ou d'autres, qui ont eu des fatwas aussi, simplement parce que des abrutis de dogme ne considèrent qu'on peut pas penser autrement que qu'ils pensent dans leur petite tête. Bon, c'est insupportable. Et j'estime que ça, on n'a pas à supporter ça. Il faut, non seulement, il faut pas le supporter, mais il faut le condamner, le combattre. On est en guerre contre ce totalitarisme, cette volonté d'asservir les peuples et les individus, et les esprits, et d'éradiquer la culture. Alors, elle vient pas que de l'islam, hein. Elle vient, et bien évidemment, de toutes les formes d'intégristes. Les premiers textes que j'avais écrits, moi, c'était contre les intégristes catholiques qui voulaient faire interdire des pièces de théâtre parce que, paraît-il, on y offensait le Christ.
On revient sur l'idée de blasphème.
J'en reviens là. Là aussi, c'est encore la foutaise. Le blasphème, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'aurais pas le droit de critiquer une religion ou n'importe quel sacré, mais au nom de moi, je n'aurais pas le droit. L'opinion de l'autre n'est pas forcément la mienne, mais j'ai le droit de la contester. Donc, j'ai tout à fait le droit. D'abord, ça n'existe pas. Le blasphème, c'est comme le sacrilège, ça n'existe pas. Moi, quand Bakounine dit « si Dieu existait, il faudrait s'en débarrasser », ce n'est pas un blasphème, c'est une opinion. De même que quand l'autre dit « Dieu existe », c'est une opinion, point barre. Et donc, ça se discute, tout ça. Alors, j'en reviens toujours à la même formule, le respect est dû aux personnes, mais pas à leurs opinions ou à leurs croyances. Sinon, alors, il faut tout respecter, tout et n'importe quoi.
Alors, j'ai pris beaucoup de notes, bien sûr, sur ce livre qui est très riche de réflexions. Encore une fois, d'une façon terriblement agréable à lire. Si l'islam n'accepte pas la critique, alors il n'a pas sa place dans la société. Bon, tu es d'accord, bien sûr, sur ce...
C'est pas moi qui le dis,
oui,
hein.
Voilà, donc tu abondes, évidemment, dans ce sens-là.
Hein? Bien sûr. Mais l'islam, bon, disons tout de suite, c'est vrai que je mets en cause l'islam beaucoup dans ce livre, parce que aujourd'hui, c'est alors, on nous dit l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam. C'est à peu près aussi crédible que de dire, je sais pas, moi, que les croisades n'ont rien à voir avec le christianisme. C'est stupide. Bien sûr que les croisades, c'était du colonialisme, c'était une première forme de colonialisme, des formes de colonialisme, mais il est bien évident aussi que sans la religion derrière, elle n'était pas possible. C'est vrai aussi pour la croisade des Albigeois, c'est vrai. Et c'est évidemment vrai, c'est la religiosité qui est au fond de tout ça, cette croyance en un absolu. Quand on croit en un absolu, on peut pas être tolérant. Si on croit en absolu, il n'y a pas de tolérance. Si j'ai raison et les autres ont tort, eh ben, je dois me battre pour mon absolu. Et donc, ben, je massacre, je fais... Bon. Donc, c'est cette religion, ce que j'appelle la religiosité. Alors, bien sûr, les religions ont bien d'autres dimensions, les dimensions spirituelles. Mais encore une fois, la spiritualité existe si on a, même sans Dieu. Enfin, je veux dire, il y a des mystiques sans Dieu, et il y a une spiritualité. La spiritualité, c'est la vie de l'esprit. C'est autre chose que la foi. Mais il est bien évident aussi que les religions ont cette dimension, quelle qu'elle soit. Et cette dimension est importante, mais encore une fois, elle n'est pas forcément liée à la foi. Et surtout, quand on dit, ah oui, mais c'est l'exploitation politique des religions. Mais par définition, les religions sont politiques, puisque les religions entendent donner une vérité, une lecture des hommes et de la société des hommes, et surtout être prescriptives en matière de vie sociale, de vie personnelle, de vie même de vie intime, puisque on le sait bien, notamment les trois religions monothéistes ont l'obscénité, je dis bien l'obscénité, de s'occuper de ce qui se passe dans les lits, quoi. Ça me fait toujours rigoler. Moi, si Dieu existe, je pense qu'il regarde dans les cœurs, pas au fond des lits, quoi. Faut vraiment avoir une notion, mais médiocre et méprisante de son Dieu pour croire qu'il a, de même qu'il a besoin de turiféraires. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui aurait besoin qu'on lui lèche le cul, quoi? Bon, c'est lamentable.
Lamentable. J'ai déjà écrit là-dessus, hein.
Oui, alors j'ai écrit une pièce qui s'appelait Dieu se moque des lèches-bottes. Parce que bon, j'imagine que si Dieu existe, il est vraiment pas du côté de ces gens-là. Il peut pas être du côté de ces gens-là. Ou alors, il n'y a pas de message évangélique, par exemple, quoi. C'est ahurissant qu'on puisse penser que Dieu a besoin de qu'on lui serre les pompes. C'est stupide.
Alors, je voudrais te rappeler qu'il y a quelques semaines, l'évêque de Pamiers, qui est dans le diocèse de Montségur, au cours d'une manifestation religieuse très importante, s'est incliné et a demandé pardon pour les crimes commis lors justement des croisades, hein, oui, Montségur, mais 1214.
Je ne dis voilà. pas, il faut...
Donc il y a là, effectivement, oui. Bon, ça fait quand même plus de 8 siècles. Mm-hmm. Hein. Donc 8 siècles après, il y a ce repentir, c'est-à-dire oui. Donc une évolution totale.
Heureusement. Hein. Voilà. Mais voilà. L'Église, bon, en plus, si on prend le christianisme, il est bien évident que le christianisme a été confronté dans le monde occidental à beaucoup de choses, politiquement à la Renaissance et à une démocratisation des sociétés, donc ça et puis à une culture qui s'est développée grâce à l'imprimerie, etc. Et puis aussi aux sciences, au développement des sciences, et donc la religion, elle a bien fallu qu'elle s'adapte, oui. Et elle l'a fait. Il faut le reconnaître. Et puis, elle a eu ses propres penseurs qui étaient aussi des êtres d'inquiétude. C'est ce que je dis. Moi, ce que j'aime chez certains croyants, c'est qu'ils ne sont pas dans l'absolu. Ils sont dans l'inquiétude et donc le souci
dans
de
la
l'autre.
Recherche.
Et dans la recherche, comme l'était Hegel, par exemple. Et dans la recherche et dans l'inquiétude et dans le souci de l'autre. À partir de là... C'est une ouverture. Je ne suis pas sûr, encore une fois, qu'il y ait besoin de la foi pour ça, parce que je connais beaucoup d'athées qui sont dans la même ouverture. Mais cela dit, la foi ne l'interdit pas, et même, je pense, dans certains cas, la porte. Voilà, c'est en ça que je dis ouais. que je ne suis pas, et que le clivage pour moi ne passe pas entre athées et croyants, mais entre, d'un côté, les athées et les croyants tolérants, et de l'autre, toute cette forme d'intolérance qui se développe aujourd'hui. Voilà.
Alors, les religions seraient perfectibles.
Ben alors. C'est tout le débat. Chez les chrétiens, bon, ce que je fais dire à mon interlocuteur et ce qui est dit, notamment chez les catholiques, c'est que effectivement, D'abord, il y a une notion très forte là, que l'homme, Dieu a voulu l'homme libre chez les catholiques, enfin chez les chrétiens. Oui. Donc c'est important parce que bon, d'un seul coup, la responsabilité des actes est portée par l'homme, c'est pas le fatalisme. Oui. Et ça, je pense que pour la démocratie et même pour la dignité humaine, c'est fondamental. C'est un point. Ensuite, l'autre, c'est effectivement ce que je fais dire à mon interlocuteur, c'est que tout ce qui constitue non pas les dogmes, mais tout ce qui constitue la philosophie, si on veut, je veux simplifier, d'une pensée catholique, par exemple, est perfectible. C'est-à-dire qu'on peut s'être trompé, on peut améliorer. De toute façon, c'est là aussi, il y a le doute. Il faut se souvenir de la fameuse conférence qui devait définir si les Indiens avaient ou non une âme et donc méritaient le respect au moment de la conquête des Amériques. C'est quand même ça, c'est à l'initiative des chrétiens, et c'est donc ça émane d'eux-mêmes et d'une interrogation profonde qui a porté quelque chose d'important d'une ouverture à l'autre. Et philosophiquement, qu'évidemment, la conquête coloniale négligeait complètement. Voilà. Donc, je ne suis pas complètement, je ne suis pas en position anti-religieuse. D'ailleurs, je me dis pas anti-religieuse, je me dis même pas anti-cléricale, moi. Simplement, c'est sur quelques notions que je pense qu'il faut être, par exemple celle du blasphème. Bon, si on n'accepte pas ce que disent très bien d'ailleurs des penseurs du monde musulman, je ne sais pas si je vais les retrouver là, mais les citations, mais si l'islam n'accepte pas la critique, il ne peut pas trouver sa place dans une société démocratique. Donc, et ça, pour ça, il faut le rappeler, parce que quand on dit oui, mais l'islamisme fait pas l'islam, mais oui, mais sauf que les musulmans modérés eux-mêmes ont demandé à ce qu'il y ait dans la loi une condamnation du blasphème. Ils ont échoué, fort heureusement, mais ils l'ont demandé. De même, les catholiques, enfin les intégristes catholiques, ont demandé la même chose. Donc ces gens-là, moi je suis désolé, on peut me dire ce qu'on veut, mais quand on veut interdire à l'autre de penser contre l'État, contre la religion, on est déjà dans le germe du totalitarisme. Et le reste en découle. Donc, non, l'islamisme n'est pas étranger à l'islam. Il en découle, mais pas forcément. Il en découle, mais heureusement, et d'ailleurs la société musulmane a donné à certaines périodes des exemples au contraire de tolérance. On ne peut pas l'oublier. Dans la Turquie, à une époque, les protestants qui fuyaient les guerres de religion en France ont trouvé un refuge et une bienveillance. Donc, il faut dans tout ça être nuancé, sauf sur quelques principes. Et bon, voilà, c'est cela que je réaffirme, je pense, avec un peu de véhémence.
C'est bien. Donc, le livre passionnant, Lettre de Nathée à un ami croyant. On a à peine esquissé quand même le débat.
Oui, bon,
donc,
Michel,
si tu veux bien, tu vas nous faire le plaisir de revenir. On reparlera un petit peu quand même de ce livre, Lettre de Nathée à un ami croyant, avant de parler de troubles et peut-être de finir dans cette deuxième émission que nous allons programmer. Également sur ta poésie.
Voilà. Est-ce que je peux lire?
Non, on n'a plus. Là, malheureusement, nous n'avons plus le temps. J'interroge Claude. Oui, voilà, nous avons 2 minutes.
Alors, on va finir sur un poème qui n'est pas dans ce livre, qui est dans un autre recueil, mais qui est tout à fait.
Dis-nous de quel recueil il s'agit.
C'est un présent qui s'absente, paru chez Bruno Doucet. Voilà. Frère de terre. Je n'ai pas de frère de race. J'ai des frères de condition. Des frères de fortune et d'infortune, de même fragilité, de même trouble, et pareillement promis à la poussière et pareillement entêté, à servir si possible à quelque chose, à quelqu'un, même d'inconnu, à quelques frères de même portée, de même siècle ou d'avenir. Je n'ai pas de frères de race, ni de religion, ni de communauté, pas de frères de couleur, pas de frères de guerre ou de combat, je n'ai que des frères de terre. Secoués dans la galère des espoirs et des espoirs, des mortels embarqués, des frères de rêves partagés et de peurs trop communes. Je n'ai pas de frères de race. J'ai des frères de conditions bien différents et très semblables, d'ailleurs terriblement interchangeables dans l'égoïsme ou dans la compassion. Des frères tout pétris de l'envie de partager leur solitude avec le pain et parfois le bonheur insigne d'apprendre ensemble à dire non. Je n'ai pas de frères de race, mais les frères dans le refus de n'être qu'un passant, des frères par l'art et par le chant, et l'énergie déployée chaque jour à tenir tête au néant. Les frères à travers les âges, la géographie et les frontières, et qui sait même au-delà de l'espèce peut-être, un frère en tout vivant.
Merci Michel. Je voudrais peut-être terminer par cette citation de quelqu'un que tu as connu, Jean-Claude Pirotte.
Oui.
Oui. Il dit ceci, c'est dans un de ses derniers livres, en tout cas un livre posthume, s'appelle Traverse, publié au Cherche Midi. Il dit, rien ne s'est passé en 2001, il parle de l'attentat de 2001, des tours jumelles, qu'une agression, comme il s'en produit des milliers chaque année, un peu plus spectaculaire que d'habitude, mais bien moins que les catastrophes fomentées par le prétendu progrès, la cupidité des financiers et l'aveuglement des politiciens éblouis par la concussion.
Il a raison, parce qu'il ne faut pas oublier ces désastres liés effectivement à notre rapacité et qui a bien sûr qui a une consistance politique aussi.
Voilà, Jean-Claude Pirotte. Ainsi s'achève. Merci beaucoup,
merci.
Michel. Donc merci. À très bientôt pour reparler de ça et de Au trouble que je rappelle, qui est publié aux éditions Petra. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Citeranion et nous vous disons à la semaine prochaine à 10h.